du jazz.
D'hier et d'aujourd'hui.
Laurent Verdot.
Pascal Verdot.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Aujourd'hui, nous reprenons l'exploration du coffret de réédition des œuvres majeures de Fletcher Henderson et de son orchestre, paru, nous le rappelons, chez Frémo, sous le numéro FA5754. Nous avons eu quelques réactions d'auditeurs qui nous ont dit « Vous êtes bien discret sur l'origine de ce coffret qui a été réédité avec un traitement du son tendant à le rendre pratiquement contemporain. » On a l'impression que l'orchestre a été enregistré il y a un mois.
Allez, pour dire la vérité, les gens ont été incroyablement enthousiastes. Ceux qui ont reçu ce coffret, ça a été un déluge de lettres positives en disant « c'est formidable, on a l'impression d'y être » alors que c'était en 1927
pour l'instant.
Eh ben voilà, on va vous dire la vérité, c'est Laurent Verdot qui en a eu l'idée, qui a mis la chose en place et qui a prêté son oreille, il faut le dire, tout à fait remarquable. Et tout ça en complicité avec un ingénieur du son formidable, Didier Perrier, qui a permis les exploits techniques, l'oreille et la technique. On ne peut pas trouver mieux.
Bien, maintenant que tu as fait rougir mes cheveux blancs, je ne sais plus où me mettre, je ne sais plus quoi dire, j'espérais qu'on n'en parlerait pas.
Oui, mais on va quand même continuer l'émission.
Bon, d'accord, mais enfin, il faut quand même reconnaître que tout le mérite lié au traitement du son lui-même revient à mon ami Didier. Il faut dire que comme on travaille ensemble depuis 30 ans et très régulièrement, nous avons quand même beaucoup de raisons d'avoir nos oreilles en phase. On savait tous les deux le but qu'il fallait atteindre, et grâce à lui, je pense qu'il a été atteint en tout cas au mieux de ce qui pouvait se faire dans les conditions techniques actuel. Voilà pour ce coffret. Alors maintenant, s'il vous intéresse, n'hésitez pas, commandez-le à votre disquaire préféré, à Internet, à qui vous voulez. Ça vaut vraiment le déplacement, car l'orchestre de Fletcher Henderson, c'était, de l'avis de tous ceux qui l'ont entendu, en vrai, c'était le meilleur qu'ils aient jamais entendu de leur vie. Et maintenant, nous entrons dans le vif du sujet, puisqu'il est question de Fletcher Henderson. Le voici de nouveau, avec son orchestre donc. Et autant vous le dire tout de suite, nous allons passer toute l'émission en 1927. Car 1927, c'est une année incontournable pour Fletcher Henderson. C'est peut-être sa grande année.
Vous vous souvenez que Fletcher Henderson était un remarquable découvreur de talent. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Jimmy Harrison.
Oui, Jimmy Harrison, personnage fort important, car c'est grâce à lui que nous allons vous parler d'un critère d'appréciation du jazz que les musiciens appellent le talent de raconter une histoire, tell a story, ça se dit en américain. Là, tu vas pouvoir faire un parallèle et essayer de faire comprendre à nos auditeurs ce que c'est que raconter une histoire que avec des notes de musique.
Effectivement, c'est quelque chose que vous retrouvez dans toutes les musiques traditionnelles, les musiques du peuple. D'ailleurs, moi-même, j'ai entendu, lorsque je parlais avec les très vieux violoneux, il y a fort longtemps, ils disaient pas « je vais vous jouer » ou « je vais te jouer ». Ils disaient « je vais te dire ». La première fois, je me suis dit « c'est un peu étonnant, qu'est-ce qu'il me raconte, qu'il va me dire ?» Et là, il prenait son violon et il jouait. Et j'ai fini par comprendre que « je vais te dire », c'est raconter en musique un sentiment, une façon d'être, un désir de communiquer que eux, ils assimilent à la parole.
Mais c'est un langage. Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette manière de voir. C'est un langage et la danse aussi est un langage. Si tu as lu Zorba le grec, et tu as lu Zorba le grec, j'y étais, on l'a lu ensemble pratiquement. Si tu as lu Zorba le grec, tu dois te souvenir de ce moment où Zorba explique à l'auteur du bouquin « ça, je ne peux pas te le raconter, mais je vais te le danser ». Eh bien, il y a beaucoup de cas où le jazzman qui doit se raconter lui-même, il ne sait pas le faire avec des paroles, mais il sait le faire avec sa musique. Il y a donc dans le jazz de grands narrateurs et ils ont été très présents dans l'orchestre de Fletcher Henderson. Et le premier morceau que vous allez entendre, vous entendrez le fameux Jimmy Harrison qui est pour moi le plus grand de tous, qui joue du trombone à la fin du morceau. Le premier solo est de Charlie Green. On entend également Joe Smith et Tommy Lanier, les deux fameux trompettes. Et vous verrez que chacun a sa façon bien à lui de se raconter. Le morceau s'appelle
Wabash Blues.
Et nous le ferons suivre d'un autre morceau très dansant. D'ailleurs, c'est un morceau dont le titre est une danse, c'est le nom d'une danse.
Fidgety Feet, ce sont les pieds agités. Et je peux vous dire que là, les danseurs, ils s'agitaient. Hein. Sûr.
Quand on entend ce morceau, on se rend compte que ça devait effectivement pas mal remuer. Et dans Fit Jutty Fit, vous entendrez de nouveau le fameux Jimmy Harrison dans un solo. Le tempo est très rapide. Le solo est d'une détente incroyable. Il raconte son histoire, toujours en musique donc, comme quelqu'un qui serait au coin du feu.
Thank you.
dans cet orchestre de Fletcher Henderson des affinités entre les gens et ils étaient quand même tous un peu ça, la même longueur d'onde. Et Tommy Lanier, le trompettiste, était extrêmement copain avec Jimmy Harrison, le tromboniste, et ils avaient l'habitude de se retrouver ensemble pour une sorte de compétition. C'est Tommy Lanier qui raconte ça.
Nous passions des heures à jouer ensemble en dehors du travail et nous avions un petit jeu entre nous. Jimmy me disait « Allez, parlons un peu, c'est toi qui commences ». Alors je prenais ma trompette et je jouais une phrase. Jimmy devait la reproduire exactement avec son trombone, sans en changer une note. C'était difficile car un trait rapide est plus facile pour des pistons que pour une coulisse. Mais il y arrivait facilement et on continuait. Évidemment, j'allais de plus en plus vite et avec des phrases de plus en plus compliquées. Et à chaque fois, je lorgnais en douce la tête qu'il allait faire. Mais il y arrivait encore et encore. À la fin, je lui envoyais un break hérissé de difficultés. « Et celui-là ? » ?»« Attends un peu, » répondait Jimmy. Et après un instant de concentration, il me sortait le même break à la même vitesse et sans une bavure. « Oh, je n'ai jamais pu le semer. »
Oui, Jimmy Harrison est considéré par les musiciens et par les trombones en particulier comme un véritable chef de file. En trombone, il y a d'un côté le style Nouvelle-Orléans avec ses glissandos et tout son jeu de soutien qu'on appelle le style Tygate. Et puis à côté de ça, il y a le développement des idées par une construction, par un solo. Et ça, l'inventeur de cette manière de faire, c'est bien Jimmy Harrison. Voici un morceau qui s'appelle The Wong Wong Blues, où les deux complices que Pascal vient d'évoquer sont les solistes principaux. Et nous le ferons suivre d'un morceau.
Un morceau. Sensation. Ce qui veut dire sensation en français.
Sensation. Et dans ce morceau-là, beaucoup de solistes de l'orchestre s'expriment, y compris le saxophoniste ténor Coleman Hawkins, qui est également un inventeur. On considère Coleman Hawkins comme l'inventeur du style de saxophone ténor dans le jazz. Ni plus, ni moins. Le problème que posent les enregistrements de Fletcher Henderson est que manifestement, cet orchestre était desservi par le studio. Or, le seul témoignage que nous en avons, c'est le disque. Mais c'est également ce qu'en ont raconté les témoins, les gens qui ont entendu cet orchestre en action.
En live, en somme.
Et là, on commence à comprendre, d'un côté, l'intérêt qu'il y avait à restituer le son de cet orchestre d'une manière plus contemporaine que les vieux disques qui grattent. Ça, c'était notre problème. Et deuxièmement, on commence à comprendre les raisons de ce décalage. Et vous allez voir, c'est très technique.
Ce que joue au Roseland, au Savoy ou ailleurs, l'orchestre de Fletcher Henderson, fait la part belle aux improvisations. La durée des morceaux n'est pas verrouillée. La seule contrainte étant de rendre heureux les pieds des danseurs. Les arrangements sont faits pour eux et dans les grands dancing noirs, certains morceaux dépassent facilement 10 minutes. Les musiciens peuvent prendre leurs risques, exprimer en toute liberté un tonus individuel et collectif resté dans toutes les mémoires. Il y a beaucoup d'arrangements dits « de tête » que l'on joue comme un seul homme. Dickie Wells en témoignera. Les gars de l'orchestre savaient se glisser dans les arrangements et semblaient savoir d'avance exactement ce que Fletcher souhaitait. Au studio, c'est autre chose. Les passages improvisés sont drastiquement réduits. On appelle ça le « stretching it out ». On passe du jubilatoire au pointilleux. Et le résultat n'est pas le même.
Oui, parce qu'au studio, d'ailleurs nous allons y revenir un peu plus loin, au studio, la durée limite possible, c'est 3 minutes 20. Au-delà, on arrête tout. C'est trop long, c'est ingravable, les disques sont trop petits. Alors évidemment, c'est les improvisations qui en pâtissent, hein, puisque le squelette du morceau, c'est l'arrangement, et il faut bien conserver l'arrangement, évidemment. Coleman Hawkins a évoqué ce problème.
Nous avions joué ce nouveau morceau comme des enragés. On le rejoue le soir suivant. Merveilleux. Peut-être 2 ou 3 jours après, on va au studio pour l'enregistrer. Affreux. Ça n'a jamais voulu sortir correctement. Je ne sais pas ce qui se passait avec cet orchestre. Je ne l'ai jamais compris. Pourquoi cette formation était-elle incapable d'enregistrer ? En public, c'était l'orchestre le plus rentre-dedans, le plus punchy que j'ai jamais entendu. Mais il lui était impossible d'en rendre compte par le disque. La plupart des autres orchestres sonnaient 100% mieux en disque qu'en direct. L'orchestre de Fletcher, c'était exactement le contraire.
Et Rex Stewart, dans ses mémoires, en a remis une couche.
Les disques ne peuvent qu'induire en erreur les gens qui n'ont pas entendu cet orchestre en action. Ne vous laissez pas influencer. Ils ne lui rendent pas justice. Nous pouvions jouer autant de chorus que nous voulions, 10, 20, chacun étant plus excitant que le précédent. L'interprétation nous appartenait et nous pouvions même tous ensemble terminer un morceau crescendo avec des chorus supplémentaires qui n'étaient pas sur la partition et qui n'ont jamais été enregistrés.
Et puis, il y a les conditions dans lesquelles les séances d'enregistrement se passent. Donc, nous allons vous proposer une petite expérience. Voici 2 fois le même morceau. Il s'appelle St. Louis Shuffle. La première version que vous allez entendre a été faite dans des conditions techniques au rabais, je dirais, pour une sous-marque de Columbia qui s'appelait Harmony et dont la production était destinée à être vendue à très bas prix dans les épiceries des quartiers noirs. Inutile de vous dire que côté budget et technique, on n'allait pas très loin. La deuxième version que vous entendrez immédiatement ensuite a été enregistrée pour la compagnie Victor dans de très bonnes conditions. Et vous allez voir, avec le même morceau, le même personnel, c'est à 1 mois de distance. La différence dans la manière de s'exprimer de tous ces gens. On sent quand même que les conditions techniques avaient de l'importance et nous allons y revenir après.
Bon, allez, écoutez bien les 2 versions.
Thank you.
J'espère que vous voilà convaincu. Cerise sur le gâteau, la première version était selon les techniques acoustiques, même si elles étaient depuis longtemps rendues obsolètes par le procédé électrique. Et la deuxième version était justement avec le procédé électrique, la fameuse innovation Western Electric. Hein, c'est l'ancêtre de tous nos studios d'enregistrement, de nos micros, de tout. Voici une petite page sur les joies de l'enregistrement acoustique par Garvin Bushell.
Le directeur de séance se tenait sur une grande plateforme et s'agitait selon ce qu'il voulait que fassent les instruments. Les bras levés quand il fallait jouer fort, baissés pour les passages en douceur. Nous ignorions tout des techniques d'enregistrement à cette époque. Par rapport à maintenant, c'est la même différence qu'entre attacher une charrette à un cheval et conduire une Cadillac. Généralement, il y avait trois tuyaux avec des pavillons au bout qui sortaient dans la salle d'enregistrement. Chacun des cuivres s'asseyait sur une chaise haute, juste en face du pavillon, et jouait dedans. Le piano était capté par un autre tuyau qui prenait le son général. Il n'y avait ni basse, ni batterie à cette époque. Apparemment, leurs traces dans la cire étaient trop larges pour être exploitables. Alors, on s'en passait.
Il n'empêche, dans ces conditions difficiles, donc toujours pour la fameuse marque Harmony, fameuse par son art de rogner sur les budgets, Fletcher Anderson a enregistré quelques chefs-d'œuvre. Vous en avez déjà entendu quelques-uns, sans savoir que c'était dans ces conditions-là. En voici deux autres. Les deux morceaux que vous allez entendre s'appellent respectivement
Goose Pimples
et
The St. Louis Blues.
Dans le deuxième morceau, les ensembles sont menés par Joe Smith d'une manière absolument magnifique. Les solos de trompette sont par Tommy Ladnier d'une manière absolument magnifique. Et il y a un dialogue qui nous renvoie à la lecture de tout à l'heure entre Tommy Ladnier et Jimmy Harrison. C'est pas le dernier qu'on entendra aujourd'hui d'ailleurs.
Thank you.
L'orchestre de Fletcher, c'est un orchestre qui joue pour la danse, mais des arrangements, il y en a peu ou pas. Et tout d'un coup, en 1923, arrive une sorte d'ovni, un type incroyable, c'est Don Redman. Et cet homme-là, il va changer les choses. D'abord, il a de grandes facilités. C'est un surdoué de la musique, il prend un instrument, il en joue comme s'il en jouait depuis... 10 ans.
Mais il en joue depuis 10 ans. Parce que ce type, il a commencé à apprendre la musique tout gamin. Il savait jouer de tous les instruments à dos. Hein.
C'est incroyable. C'est vraiment quelqu'un de complètement exceptionnel. Il rentre dans l'orchestre de Fletcher et c'est là où l'orchestre va prendre une dimension autre.
Comme tu viens de le dire, il connaît la musique jusque dans les coins. Il grouille d'idées. Alors là, vraiment, il a des idées les unes sur les autres. Plus tard, Count Basie disait des arrangements de Don Redman. Oh, dans un arrangement de Don Redman, mais on pourrait trouver la matière de 32 morceaux. Il manie la composition, l'arrangement, le solfège, comme s'il habitait dedans.
Dans l'harmonie, dans la façon de créer un morceau, il est comme chez lui. Il n'y a jamais aucune difficulté pour lui.
Alors, il y a plusieurs gros avantages. D'abord, la qualité des arrangements qu'il fournit à Fletcher. Tout en jouant, lui, la partie de saxo alto, parce qu'il est aussi dans l'orchestre. Il n'est pas que arrangeur, il est musicien aussi. La deuxième chose, c'est qu'il a absolument conscience de l'objectif. C'est un orchestre de danse, il fait des arrangements que les danseurs aiment énormément. Et quand on écoute les arrangements de Don Redman et certains passages, on se rend compte que ça correspond à quelque chose que les danseurs faisaient devant l'orchestre à ce moment-là. Puis la troisième chose, c'est que c'est quand même pas du tout venant, c'est pas du facile. Il y a beaucoup de petits détails importants. D'ailleurs, actuellement, je connais un orchestre qui essaye de jouer les arrangements de Redman de cette époque. Ben, quand on entend le résultat, on se rend compte qu'il suffit pas des premiers prix du conservatoire pour jouer ce genre de choses. Hein. C'est tout à fait...
Et oui, parce qu'il n'y a pas que la partition, il y a aussi la cadence.
Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et donc, ces arrangements forcent les gens à travailler. Et le niveau technique de l'orchestre et des musiciens les uns après les autres...
Eh bien, il va monter.
Ah oui, ça, il monte considérablement. Bref, en un mot, commençant, dans l'histoire du jazz, le premier des grands orchestres, c'était Fletcher Anderson, et le premier des grands arrangeurs, de ceux qui ont compté, c'est Don Redman. Alors, quelques exemples pour que vous puissiez vous mettre Don Redman dans l'oreille. Voici
The White Man's Tomb,
puis
I'm Coming Virginia.
I'm Coming Virginia, le deuxième morceau, vous allez entendre, c'est un morceau absolument extraordinaire à tout point de vue. Que ce soit l'inspiration des solistes, que ce soit la qualité de l'arrangement, que ce soit la manière de l'exécuter, on est dans la perfection d'un bout à l'autre. Puis alors, c'est trouvé. Hein. Moi, je n'ai qu'un regret, c'est qu'on n'ait pas les 10 minutes que devait durer ce morceau. Quand on joue en live, on aura encore profité mieux des trouvailles de Don Redman, parce que je suis sûr qu'ils ont tapé dedans pour arriver à tenir dans 3 minutes. 3 minutes, c'est incroyable ce qui se passe de choses en 3 minutes dans ce morceau-là.
Thank you.
l'occurrence, Don Redman, il va donner une envie à Fletcher. Fletcher était titillé par le désir de faire lui-même des arrangements.
Mais il faut savoir que Fletcher, finalement, c'est un chef d'orchestre très brillant, qui portait beau, hein, élégant, beau mec, tout ça, hein,
oui.
Cadillac, une femme dans chaque port, enfin bref, en plus de la sienne, enfin bref.
Bref, on raconte pas tout.
On ne vous raconte pas tout, mais néanmoins, c'était un type quand même qui se posait là. Eh bien, il était d'une modestie en musique absolument incroyable. Il y a un seul disque où on peut l'entendre jouer un solo de piano de 32 mesures. Tout le reste, c'est des petits bouts par-ci, par-là. Et au point de vue arrangement, il va mettre beaucoup de temps à s'imposer comme un des plus grands arrangeurs de jazz. Et là, le voilà qui passe le bout de son nez également en 1927. Le morceau s'appelle...
Variety Stomp.
Naturellement, nous reviendrons sur les arrangements de Fletcher Anderson dans une émission ultérieure, puisqu'il a commencé à donner toute sa mesure plutôt après la crise de 29 qu'avant, finalement. Je ne sais pas si une relation de cause à effet. En tout cas, l'année 1927 commence à tirer à sa fin et une page très importante va se tourner. Voici donc la dernière plage, le dernier disque où s'illustre le tandem Tommy Ladnier-Joe Smith.
Le morceau, c'est Livery Stable Blues, c'est-à-dire le blues du loueur de chevaux.
Et c'est un morceau historique car il figure sur les tout premiers disques de jazz enregistrés par l'original Dixieland Jazz Band en 1917. Ça faisait partie du répertoire, mais alors là je peux te dire qu'à cette époque-là, ce morceau avait été assorti de cris d'animaux qui sont restés célèbres. On n'était pas du tout dans le même registre que Fletcher Anderson. C'est un morceau où Joe Smith ouvre le feu, suivi par Tommy Ladnier, vous les reconnaîtrez très bien, ils se ressemblent, ils sont très ressemblants à eux-mêmes l'un comme l'autre.
Novembre 1927, c'est la fin d'une époque. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Il y en a qui vont partir.
Eh bien oui, Don Redman est déjà parti car on lui a proposé la direction musicale des McKinney Cotton Pickers où il va s'illustrer. Joe Smith va bientôt partir pour le rejoindre chez les McKinney d'ailleurs. Et puis c'est l'époque aussi où Tommy Ladnier s'en va. Il est resté un an dans l'orchestre. C'était un peu une parenthèse entre deux grands voyages en Europe. Car Tommy Ladnier va retourner en Europe. Il aime beaucoup l'Europe, pour les raisons que tu as dites dans la précédente émission. Et en particulier parce qu'en Europe, Tommy Ladnier se sent libre, ce qui n'est pas négligeable.
Donc ça fait quand même trois personnes d'importance qui s'en vont.
Ah ben là, l'orchestre va connaître beaucoup de changements, y compris dans sa manière de jouer. Et ça, on vous le fera écouter dans la suite de ce cycle sur Fletcher Anderson, dans quelques temps. Mais là, avant de partir, ce 4 novembre 1927... Tommy Ladnier marque une dernière fois sa présence chez Fletcher Anderson par une ouverture absolument foudroyante du morceau que vous allez entendre pour terminer, qui s'appelle
« Hop off ».
Ce titre lapidaire rappelle que quand Fletcher Anderson disait à ses musiciens de monter sur scène, il leur disait « Messieurs, à l'assaut, vous apprécierez dans ce morceau la richesse de l'arrangement, la fourmi d'idées, et l'éloquence des solistes, Tommy Ladnier en tête naturellement. »
Thank you.
C'était La Planèse du Jazz.
À la planète prochaine.